nous revoilà dans le studio de Radio Courtoisie pour le rendez-vous de la réinformation avec Richard Decaize, avec Alexis Poulain, Jean-Yves Le Gallou et Arthur de Vatrigan. Marc Hainaut nous a quittés et nous allons commencer donc par l'un des sujets qui nous attendait. C'était donc l'étrange profil de la patronne du compte X, ex-Twitter, donc French Response. Donc souvenez-vous, c'était au mois de septembre 2025. Le ministère des Affaires étrangères s'était doté d'un compte X, donc baptisé French Response en bon français, donc réponse française, riposte française. Et le but, a priori louable, est de défendre les intérêts de la France sur le réseau X contre la désinformation, contre les attaques étrangères. Et les méthodes employées s'inspirent des techniques qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, donc ce que l'on appelle des mèmes, donc des images, des visuels parodiques, des phrases choc, des réponses sarcastiques, des images animées et amusantes, supposées donc contrer la désinformation ou la guerre de l'information, en tout cas. Et on peut même trouver, pourquoi pas, cette riposte légitime, à défaut d'être efficace, d'ailleurs, parce que je ne suis pas certain que ce soit d'une efficacité redoutable. Mais l'ennui, c'est que donc l'équipe qui est chargée d'animer cette cellule riposte n'est pas très claire, comme l'a révélé Pierre Sautarel, donc le créateur de F de Souche. Alors, est-ce que l'un d'entre vous s'est intéressé au profil de Marie Doa Besancenot, qui n'a rien à voir, donc encore une fois, avec le facteur?
En fait, je m'y suis intéressé en lisant ce que Pierre Sautarel lui-même a révélé, c'est-à-dire d'expliquer quelle était la fille d'un haut fonctionnaire. Lui-même ayant des liens certains avec les pays du Moyen-Orient, au point d'avoir donné à sa fille qui est née le nom de la capitale
Doha.
De l'Arabie Saoudite, si je ne me
trompe. Non,
du Qatar.
Du Qatar, oui.
Et donc son père étant lui-même en lien avec les Qataris. Et donc on se retrouve avec quelqu'un qui est diplomatiquement engagé au service de la France, fils de quelqu'un qui est surtout engagé du côté des Qataris, et donc la France a filé en fait les manettes de son compte
riposte.
Qatar.
Les Qataris enfin, étant accessoirement une des forces qui encouragent l'islamisme en France et les formules les plus radicales de l'islamisation, y compris avec AGESI+, qui inocule les virus VOC. Dans le milieu français, tout en développant
c'est quoi ça,
l'islamisation dans les milieux musulmans, l'islamisation radicale dans les milieux musulmans.
Oui. Alexis Poulain, qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire Marie Doa Besancenot, donc, qui anime le compte, qui lutte contre l'influence étrangère en France?
En fait, j'avais lu un commentaire très drôle, c'est « Heureusement qu'elle n'est pas née à Moscou
». Ah oui, Marie Moscou Besancenot, ça aurait été...
On aurait
plus vite.
Mais alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, l'entre-soi, papa ambassadeur, elle qui est dans la diplomatie, pourquoi pas. C'est très bien, choisi par Jean-Noël Barrot, qui est lui aussi un fils d'eux, pour arriver à faire un compte sur les réseaux sociaux qui est quand même risible et ridicule, hein, qui est pris en moquerie par la terre entière, même si eux ont l'impression d'être des champions du troll. Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment cette question de l'ingérence étrangère, qui, en France, est pluriel, hein. Évidemment, on a des Chinois à la manœuvre, des Russes, mais on ne parle jamais des Qataris, qui sont pourtant achetés plusieurs présidents, des candidats, pour ne parler que de Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin et tant d'autres.
Sans parler du Qatar Gate au Parlement européen, où on a retrouvé une députée avec des centaines de milliers d'euros dans des sacs
une
de supermarchés.
Oui. Du Parlement européen, c'est encore plus haut qu'une simple députée, donc on est vraiment dans la corruption la plus totale. On ne parle pas non plus de l'ingérence israélienne, pourtant elle net aussi est à la manœuvre. Bref, vous avez en fait toutes sortes d'ingérences, mais on a l'impression que pour Jean-Noël Barrot et les macronistes, celle qui compte, c'est vraiment l'ingérence russe, hein, qui est évidemment la plus sévère. Les autres, finalement, c'est, je crois, malheureusement, le quotidien de ce qu'est devenu le Quai d'Orsay depuis quelques années, hein, et particulièrement, encore une fois, on avait parlé en première partie du saccage d'Emmanuel Macron, mais comme il a saccagé les corps constitués, évidemment, maintenant, n'importe qui peut être nommé ambassadeur. Donc, ça risque d'être encore pire dans les années qui viennent si on continue avec... la base de la destruction macroniste. Après, on peut revenir en arrière. Mais pour le moment, on est vraiment dans un moment tragique pour la France parce qu'elle perd en influence à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un terrain de jeu pour de nombreux pays qui savent que finalement, acheter un politique, ça ne coûte pas très cher.
Oui, et acheter un politique, ça ne coûte pas très cher, effectivement, c'est assez triste. Mais
non, pas que la politique.
Pas que la politique,
hein.
Cela dit, oui.
C'est vrai, regardez, on parlait beaucoup du Qatar. Le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain, le Qatar a acheté toutes les Champs-Élysées, d'autres pays. Le Qatar a racheté, je ne sais plus, c'est le Prix de Diane ou je ne sais plus quel, qui s'appelle maintenant, ou l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Bon, il y a des achats, voilà, ils rachètent parce qu'eux, ils ont plein d'argent qu'ils doivent placer. Nous, on n'a pas d'argent, donc on a à vendre. On vend les bijoux de famille, et de l'ingérence, on a toujours eu, de toute façon, il y en a toujours eu. Là, par contre, je trouve qu'il y a une nouveauté, c'est que pour peut-être la première fois, ou peut-être que je ne connais pas suffisamment bien mon histoire, mais j'ai l'impression de voir des agents de l'étranger qui travaillent en France sans se cacher.
Ah oui, là, c'est un peu open bar.
C'est fascinant. Ils font de l'influence et des actions commerciales. Ce qui était criminalisé il y a 30 ans, peut-être, comme agent de l'étranger, aujourd'hui, c'est commercial. On ouvre une entreprise d'influence. Et donc, on se cache plus.
Ben, on se cache pas. Et alors, moi, il y a des gens, via leur travail, via leur position, qui bossent pour un pays étranger. On en connaît. Ça arrive. Et puis, généralement, les types sont des binationaux. Et puis, ils sont officiellement en représentation pour un pays. Mais là, je vois des gens qui sont pas binationaux, qui sont pas officiellement en représentation, qui ont pas un poste qui est lié directement à un pays, mais qui font le perroquet, mais en toute décontraction, pour les pays étrangers. On le voit pour la Russie, on le voit évidemment pour l'Algérie, on le voit pour les États-Unis, on le voit pour Israël, mais c'est fascinant. Et je ne sais pas si dans notre histoire, c'est déjà arrivé. Mais je veux dire, les gens ne se cachent pas.
Non.
C'est limite, on pourrait mettre porte-parole de tel pays, ça ne les dérangerait pas, quoi.
Oui,
et il n'y a pas de contradiction, et puis on ne les emmerde pas, et puis c'est...
Là, récemment, on a eu une lobbyiste, un agent d'influence... qui travaillait pour l'Arabie Saoudite, qui a eu de gros ennuis. C'est une ancienne policière par-dessus le marché, donc c'est quand même des choses assez, assez graves, en fait. Mais effectivement, c'est un peu à ciel ouvert. Alors, la grande question, néanmoins, c'est quand on ouvre ce compte X pour lutter contre les ingérences étrangères, pour lutter contre la désinformation, c'est quand même sous égide du ministère des Affaires étrangères. On peut au moins se dire que le ministère des Affaires étrangères
est étanche.
Oui, et puis à travailler sur le profil de la personne à qui on confie les codes, les accès du compte. Enfin, c'est quand même ahurissant, non ? Je ne sais pas, est-ce que, selon vous, cette Marie Doha Besancenot a été un peu la cible d'une enquête pour voir si elle était apte à diriger un compte directement lié au ministère des Affaires étrangères ? Ou est-ce que, elle passait par là, il y avait de la lumière, on s'est dit, tiens, vas-y, tu sais faire un tweet, prends les commandes. Ça semble ahurissant,
du copinage,
non ?
Où on le place et on dit on fait confiance. Après, le principe d'une bonne ingérence, c'est-à-dire si on voulait faire l'ingérence dans un pays, c'est de soit de placer, soit d'acheter des personnes qui sont dans les postes les plus stratégiques. Donc c'est pas étonnant de voir ces personnes-là, ces postes-là, qui sont en fait... alors elle, pour le coup, je ne connais pas cette dame, donc je ne vais pas l'accuser ou quoi que ce soit, mais on pourrait parler d'un autre ministère qui soit directement... chapeauté par quelqu'un qui bosse pour un autre pays. Ça veut dire, ce serait logique. Et puis, si la France faisait de l'ingérence, alors peut-être, je pense qu'elle en fait, mais je serais ravi qu'elle place des agents français dans des postes très stratégiques. Comme ça, on serait le plus efficace. Bon, là, c'est plutôt l'inverse qui se passe.
Quand c'est nous, c'est bien. Quand c'est les autres,
non, c'est
pas bien.
Le problème, c'est que c'est l'inverse qui se
passe. Mais nous, on a eu, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem, alors que je n'accuse évidemment pas d'être un agent de l'étranger, mais elle est quand même une des conseillères, je crois, du roi du Maroc. Et au Maroc, elle porte le voile, elle a une attitude.
Vous avez Dati aussi.
Dati ? Ah oui,
Dati, Rachida Dati, oui. Elle travaille régulièrement pour le Maroc et pour l'Azerbaïdjan.
Vous me l'apprenez.
Aussi.
L'Azerbaïdjan, elle travaille pour différents.
Oui.
Et puis il y a comment s'appelle-t-il, elle Jean-Pierre été... Raffarin qui travaille pour la Chine.
Ah, mais tous les anciens premiers ministres, si vous regardez, Fillon pour les Russes, Raffarin pour les Chinois, Villepin pour tous les pays arabes.
Gabriel Attal pour séjourner.
Oui,
qui est, pour séjourner.
Qui est pas encore une puissance étrangère, mais qui est quand même commissaire européen. Enfin, voilà, quoi.
C'est quand même fascinant, ces anciens premiers ministres qui bossent pour d'autres pays, quoi.
C'est marrant, oui.
Alors qu'on a un président qui, lui, bosse pour l'Union européenne, au moins, c'est clair.
Alexis Poulain, qui n'est pas encore un pays.
Oui,
il a.
Bah oui, parce que c'est quand même la liste est quand même. Enfin, c'est catastrophique quand on regarde ça en réalité. On se demande, mais il n'y a pas de limite. Qui travaille pour la France
Ah, ça, c'est une vraie question. Et là, il faut une enquête parlementaire. Là. Qui travaille pour la France
Et la France n'a pas. J'adorais la commission d'enquête parlementaire sur repérer les traîtres qui travaillent encore pour la France.
Je vous signale qu'il y a une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, qui était présidée par M. Jean-Philippe Tanguy, qui avait un rapporteur macroniste, et la commission parlementaire a tourné au procès du Rassemblement national, bien que le président de la commission en soit issu, sur les ingérences russes ou les présumées ingérences russes, toutes les autres ingérences étant finalement... passer sous silence.
Et notamment donc, les ingérences américaines.
Et notamment les ingérences américaines, bien sûr, ou autres.
Mais Jean-Philippe Tanguy, d'ailleurs, à ce moment-là, avait auditionné Omerta et en étant, comment dire, très désireux de montrer qu'il était prêt à sacrifier Omerta sur l'autel de la transparence et de la non-ingérence. Régis Le Sommier avait été assez surpris, et Charles Danjou aussi, des questions aberrantes qu'on leur avait posées, qui étaient en gros, vous êtes journaliste, c'est bien normal. Il vous arrive de vous déplacer dans le monde, comment ça se fait? Quand même, dans cette...
Donc il y a eu une commission d'enquête parlementaire. Bon, elle a peut-être été mal conduite, mais elle a existé.
C'est d'autres journaux qui ont été auditionnés à cette enquête.
Oui, oui. Il y a eu, il y a eu d'autres médias. Ce qui était intéressant...
Vous connaissez beaucoup de médias qui sont vendus à des puissances étrangères?
Non.
Bah, je vous pose la question.
Enfin, à part les médias qui sont officiellement payés par les médias étrangers.
Al Jazeera
Oui, Al Jazeera, par exemple.
Est-ce qu'ils ont été auditionnés?
Et puis Voice of America, Russia Today, enfin voilà.
Mais ils ont été auditionnés,
Russia Today, ils ont été, ils sont interdits.
Je crois que, je ne sais, au moment, je me demande si Russia Today n'existait pas encore au moment de la commission d'enquête parlementaire dirigée par...
C'était créé après la guerre en Ukraine.
Ah non, Russia Today n'ont pas fermé avec la guerre.
Non, la commission d'enquête parlementaire,
je ne sais pas.
Il me semble que c'était lancé après la guerre et la
Russia Today a été fermée. Comme le disait Marquenot tout à l'heure, le premier quinquennat me paraît daté d'il y a un siècle, donc voilà.
Mais
on va chercher.
Il me semble bien.
Nous allons demander à notre cerveau mobile.
Mais non, mais si, c'est évident. Pour une raison très simple, c'est que la guerre en Ukraine a commencé en pleine campagne présidentielle.
Février 2022.
Or, Jean-Philippe Tanguy, il a été nommé, il a pu être président de cette commission parce qu'il était élu. Voilà. Donc c'était après, donc Russia Today était déjà fermé.
Bon, est-ce qu'on a dit l'essentiel sur Madame Marie Doha Besancenot?
C'est un élément, à mon avis, à placer dans ce qui est devenu l'état profond français, c'est-à-dire
un
avec
gruyère.
Une très grande fonction
un émental,
d'héritage. Très grande fonction d'héritage, parce qu'effectivement, c'est la fille d'eux qui travaille pour un ministre qui est lui-même fils d'eux. Il y a ce qui est assez logique. Pour un pouvoir qui est assez ancien, finalement, le pouvoir tel qu'il existe dans ses formes actuelles, il remonte à 50 ans, voire davantage, eh bien, il y a finalement beaucoup de reproductions, et donc les uns recrutent les autres, et il y a un effet de...
Un népotisme.
Oui, mais la reproduction et le népotisme, à la limite, sont pas forcément les choses les plus gênantes dans l'affaire dont on parle. Ce qui est vraiment gênant, c'est d'avoir nommé à ce poste de lutte contre les ingérences étrangères, une personne qui manifestement est susceptible d'être sous influence. C'est d'une stupidité ou
d'un cynisme
peut-être. Sans nom, en fait.
C'est génial du point de vue du pays qui est envoyé,
qui a réussi à placer
cette personne. Ouais. C'est ça qui est... Moi, je vois plutôt le côté
stupide ou
positif, admirable. Ce pays est très fort. Comment ils font? Pourquoi on ne ferait pas pareil?
Ah, ça
Il faudrait
placer des gens dans le ministère au service de la France, ça serait quand même pas mal si on arrive à le faire.
Oui, ça c'est vrai. Ouais. Oui. Ça, il faudrait essayer de placer des gens au ministère de la France, effectivement. Alors, on va parler d'un autre sujet, parce que c'est tout de même important, ça crée une polémique dont j'avoue qu'elle me surprend. C'est la publication, la diffusion du film, donc L'Abandon, qui est consacré à l'assassinat de Samuel Paty. Là, je vois à Cannes, donc Festival de Cannes qui a lieu en ce moment, des influenceurs qui attaquent ce film en disant que c'est un film d'extrême droite, je rigole, mais...
Qui est dangereux
du tout.
Un film dangereux.
Et qui est un film dangereux et qui, je jure que c'est vrai, qui tape sur les musulmans.
Oui.
Là, on se dit, mais enfin, faut peut-être rappeler que Samuel Paty était un professeur d'histoire plutôt de gauche, j'ai l'impression. Il était prof.
Oui.
Donc, et
pardon, oui, pas
mal des enfants.
Et qui s'est fait mais décapiter par un islamiste. Et ça semble invraisemblable. Enfin, je suis obligé. Je pensais, j'avais même pas mis le film au programme. C'est grâce à Arthur qu'on en parle. Mais j'avoue que là, je n'imaginais pas que ce film puisse constituer une polémique. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de. Alors, et du film, parce que Arthur l'a vu.
Mais Jean-Yves aussi, je crois, l'a vu.
Bah, on n'a pas forcément la même vision.
Et bah, tant mieux. Oui.
Plus bienveillante, je crois, que celle d'Arthur. En fait, dans le film, il y a plusieurs manières de voir les choses. C'est un film assez largement sur le vivre ensemble, parce qu'on voit une école, un collège multiculturel, avec des enfants de toutes les couleurs, des professeurs qui s'occupent bien des enfants, le professeur Paty qui est bien aimé, enfin, de beaucoup de ses élèves. Et donc, on a finalement une vision relativement bisounours d'un collège multiculturel à Conflans-Sainte-Honorine. Là-dessus, il y a évidemment quand même un problème, c'est qu'on voit que dans certains éléments du film, et notamment à l'occasion du cours que ce professeur a voulu faire sur les caricatures sur Mahomet, beaucoup d'enfants se définissent comme nous les musulmans. Donc à l'intérieur du vivre ensemble, qui est quand même l'image dominante, il y a le « nous, les musulmans » qui apparaît, et donc qui effectivement est l'apparition de quelque chose qu'on connaît, à savoir une réalité communautaire, et là-dessus se greffe une surréaction de milieu salafiste qui aboutit à la décapitation de ce malheureux Samuel Paty. Ce qu'on peut voir aussi, c'est quand même la grande misère de l'appareil d'État qui se montre médiocre à la fois s'agissant de l'éducation nationale, s'agissant de la police et sans doute, même si c'est assez peu traité, s'agissant de la justice. Mais c'est un film, moi, que j'ai trouvé assez nuancé, en tout cas pas d'extrême droite.
Je confirme, c'est pas un film du tout d'extrême droite, mais le et le réalisateur,
quand l'avez-vous
vendredi.
Vu vendredi.
Okay. Vendredi, le réalisateur, les acteurs et les producteurs, on parle en disant que c'est un film pour rendre hommage à Samuel Paty. C'est un film pour pas qu'on fait aussi pour sa sœur Michael Paty, pour pas que Samuel Paty, son image disparaisse et que sa mémoire perdure, et un film pédagogique. Et c'est exactement ça. C'est un film pédagogique, c'est un film d'illustration chronologique. Donc il y a le film, il y a la manière dont on juge le film, la manière dont il est reçu. Oui. Et ce qui est vrai que c'est effrayant. Alors déjà, on voit qu'à Cannes, maintenant, c'est le règne des influenceurs. On invite des influenceurs à Cannes. C'est de dire si on est tombé si bas, et dans les influenceurs, bah, vous avez tout, vous avez notamment des gens d'extrême gauche. Mais ils sont assez. On commence à les connaître un peu. En fait, ils sont soi-disant spécialistes de cinéma, mais ils pondent leur analyse par des IA, ils le pondent tellement mal que ça se voit dès la première ligne. Et puis ensuite, ils font surtout de la politique, et la politique plutôt orientée à gauche, voire à l'extrême gauche. Et c'est vrai que la réaction était assez fascinante de dire je m'attendais pas à ce qu'ils sortent une connerie pareille. C'est-à-dire c'est un film dangereux, c'est un film islamophobe, tout ça. À aucun moment, ils jugent du film, on se demande s'ils l'ont vu. Sur un film, on peut juger sur ses qualités. Un film n'est pas la vérité. C'est une reconstitution, c'est une illusion. Et à aucun moment dans les critiques du film, on fait des critiques du film. On critique le fait que ce film existe.
On critique l'intention du film exactement comme pour Ombre et Lumière. C'est-à-dire on critique le fait qu'on ait pu parler d'un collaborateur qui était de gauche. Pardon ?
Ombre et Lumière, c'est autre chose, c'est Les Rayons et les Ombres.
Ou Les Rayons et les Ombres, pardon. Et on critique le fait que ce film mette en scène un personnage qui... a existé, mais n'aurait pas dû être mis en scène parce que ça jette l'opprobre sur la gauche. Moi, ce que j'ai trouvé admirable dans le film sur Samuel Paty, c'est le côté américain du film, si j'ose dire. D'abord, la rapidité. Alors, vous me direz une rapidité
très courageux, ça.
Toute française, mais quand même, justement.
Ah non, c'est rapide, hein.
On se retrouve avec un film qui sort très vite après la mort de Samuel Paty, avec un film français qui parle d'un fait français, alors qu'il y a des centaines d'histoires qui pourraient être racontées au cinéma chaque année, de tristes ou joyeuses. Et là... il y a une reconstitution, effectivement, où on sent un travail de documentaire, en fait.
Ça s'appelle un docu-fiction.
Voilà. Ce docu-fiction, c'est ça qui est fascinant. C'est que le docu-fiction montre effectivement la réalité du crime. Et donc, la réalité du crime, c'est qu'il y a eu des musulmans qui ont un jour ont discuté entre eux et qui ont jugé que décapiter quelqu'un parce qu'il n'avait pas du tout commis ce dont on l'accusait était en fait parfaitement légitime. Et je crois que c'est ça qui est le plus horrible pour quelqu'un de gauche, c'est le film ne prend pas parti, il est plat, non pas dans la réalisation, le jeu des acteurs, tout ça est assez aimable, une fois plus, je veux dire, ils n'ont pas pris des têtes d'affiche, c'est-à-dire je trouve aussi qu'il y a un vrai courage dans le fait de refuser le star system, ils auraient pu demander à Gérard Depardieu de jouer Samuel Paty, ça aurait été absolument magnifique, mais sans doute vraisemblablement peu vraisemblable, justement. Et là, on se retrouve avec un film qui, en fait, enchaîne les faits quasiment heure par heure et montre aussi, d'ailleurs, je pense que c'est en fait la première volonté du film qui s'appelle L'Abandon, c'est de montrer, en fait, que l'éducation nationale a lâché Samuel Paty. Et ça se transforme par le regard de la gauche, par... on ne peut pas critiquer l'éducation nationale parce que tous les mecs votent à gauche et donc je ne critiquerai pas l'abandon de Samuel Paty. Donc du coup, je me recentre sur mon cœur de cible qui est de dire, puisqu'on met en scène des musulmans assassins, forcément le film est islamophobe. Mais c'est pas du tout ça la thèse du film.
Je pense que même par rapport au lâchage par l'éducation nationale et par certains collègues, c'est traité plutôt de manière douce par rapport à la réalité telle qu'elle a pu ressortir de certains rapports d'inspection ou d'enquête. C'est traité, à mon avis, plus gentiment que ça n'a été. On voit le lâchage par le référent laïcité, par certains collègues, mais c'est pas traité, à mon avis, aussi sévèrement que ça aurait pu l'être. Je crois que là aussi, la gauche est un peu ménagée quand même. Ce qu'on comprend d'ailleurs, parce que c'est un film malgré tout qui a été fait avec les financements classiques, c'est-à-dire les financements publics, la région Île-de-France,
le CNC, France Télévisions, etc. France Télévisions. Un petit peu,
donc ça garantit quand même le côté... en partie consensuel, consensuel du film.
À partir du moment où ce qui est annoncé, c'est de dire on veut faire un film devoir de mémoire. Donc, c'est-à-dire qu'on veut toucher un collectif, et donc un collectif large. Ce qui fait que, bon, moi, d'un point de vue cinématographique, j'ai trouvé ça décevant, parce que j'ai trouvé que, justement, il n'y a pas de point de vue...
Le film dossier.
Non, mais ça s'appelle un docu-fiction, donc en effet, je pense que c'est un film qu'on pourrait diffuser dans les écoles. Alors après, je pense que le débat qui suivra derrière, parce que c'est le principe, quand on diffuse un film dans les écoles, c'est que se suive un débat. Je ne suis pas certain que le débat ait lieu, parce qu'à partir du moment où il y a
un
débat,
c'est dire qu'on dit qu'il est méchant. Après la diffusion de L'Abandon. L'Abandon, le retour.
Mais la question est posée, tout le monde dit il faut le montrer.
C'est pas forcément facile de le montrer dans les collèges de
Montréal. Non, c'est pas facile. Et surtout, il faut débattre de ça. Et moi, quand je suis sorti du film, je me suis dit, un, il n'y a pas eu d'abandon. En fait, c'est le système est pourri. J'ai pas vu d'abandon dans le film. Vers toutes les scènes qu'on montre, qui sont très intéressantes d'un point de vue informatif, factuel, pour ceux qui ne connaissent pas toute cette affaire et ce meurtre et cet attentat islamique, on voit plein de choses. Donc c'est très, d'un point de vue journalistique, c'est intéressant. Mais moi, je n'ai pas vu d'abandon. J'ai vu juste qu'en fait, une espèce de mécanique implacable où de toute façon, Samuel Paty ou un autre allait se faire tuer. Il n'y avait pas d'échappatoire possible dans le film. Le système est tellement
à cause d'un
fait,
système grippé, c'est ça ?
Mais foireux, mais de A à Z. Et il y a quelques abandons, mais légers, quoi. On voit chez les flics, ils ont l'information, ils reçoivent le truc, bah, ils peuvent rien faire.
C'est les procédures.
Exactement. La dame du collège qui reçoit une scène assez drôle où il y a 4000 milliards de post-it avec des acronymes pour savoir quel département elle doit appeler. Donc déjà, il faut qu'elle se rappelle des acronymes, il faut qu'elle trouve le téléphone, il faut qu'elle trouve le bon truc. En fait, on se retrouve dans une mécanique qui est foireuse. Mais c'est presque shakespearien, si vous voulez. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Et ça aurait peut-être été un angle du film assez intéressant, parce que moi je pense que si vous montrez ce film, par exemple un Américain, un Anglais ou un Paquis qui ne connaît pas l'affaire Paty, il l'oubliera assez rapidement et puis il ne saura pas quoi en retenir. Donc nous, Français qui connaissons, c'est très important, et je pense que ça permet de mettre sur pellicule quelque chose qu'il ne faudra pas oublier, mais de quoi sortir de ce film-là, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de points de vue dans ce film, entre Paty, l'école, les flics, le père, la fille, l'assassin, qu'au final, il ne choisit aucun point de vue parce qu'il choisit une chronologie. Mmh. Et bah, le cinéma, c'est un point de vue. Sauf que Richard l'a dit, en France, c'est pas dans notre coutume de faire des films sur un événement important qui a marqué notre société
et récemment,
très rapidement.
Oui,
Américains savent le faire, nous, on ne sait pas le faire. Donc déjà, l'avoir fait, c'est ultra courageux. Le film est bien joué. Il n'y a pas de faute de goût, alors qu'on peut avoir des fautes de goût. Il y a un peu de néon, mais très léger. Il n'y a pas de musique pompeuse. Et en effet, voilà, je suis étonné que quelqu'un soit heurté par ce film.
Ah bah,
parce qu'il a été fait pour que ça soit ça ne heurte personne. Il y a une nuance, il y a un équilibre. C'est très étonnant. Et donc, en effet, c'est juste le sujet qui les dérange.
Là, il y a un YouTuber qui nous dit, donc, ce que je ressens, c'est quand même encore un truc où les musulmans se font taper dessus.
Bah non, ils sont pas tapés dessus, le tueur est un musulman. Bon. Pardon, excusez-nous. Non,
pardon. Voilà.
Non, mais en fait, il ne supporte pas qu'en fait que l'assassin,
oui,
le méchant,
soit musulman. Oui.
Et c'est pourquoi il le tue. C'est pas qu'il est que musulman.
Eh oui.
Il le tue au nom de ça. Eh oui. Forcément, mais la réalité, ça pique un peu.
Eh oui. Bah, ils auraient peut-être dû en faire un bon vieux skin, et au moins la morale serait sauve.
Donnez pas des mauvaises idées.
Certes. Alexis Poulain, qu'est-ce que vous inspire cette polémique autour d'un film, encore une fois, qu'on aurait pu croire plat, lisse et parfaitement consensuel?
Alors moi j'ai pas vu le film, donc je pourrais pas dire, mais
moi non plus.
Il y avait quelque chose qui me gênait dans le fait de prendre ce drame et d'en faire un film dans la société du spectacle, quoi. Et on a évité à la version avec Jean-Paul Rouve, donc on a échappé à ça, donc bon, ouf quand même.
Ah oui, là, j'avoue mais, que Jean-Paul Rouve en Samuel Paty.
Ouais,
il y avait
dans les cartons un projet de ça, effectivement. Donc, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la mise en scène, du spectacle. On va peut-être sortir quelque chose. Alors, ce qui me rassure, c'est que la famille était présente et a accompagné tout le processus et a expliqué que c'était dans le cadre d'honorer la mémoire de Samuel Paty, de dire que c'est pas juste un nom, il y a une histoire derrière, il y avait un frère, quelqu'un qui était là. Donc je pense que c'est un film humaniste quand même, mais comme je l'ai pas vu, je peux pas vraiment en parler. Mais le fait d'en faire un film. Alors la polémique, vous savez, on va faire des polémiques sur tout dans ce pays, donc c'est formidable, sauf sur ce qui compte. Donc je crois qu'il n'y a pas de... Tout est sujet à polémique, en fait. Et ça, c'est un peu aussi le truc qui s'auto-entretient. Là où, pour moi, il n'y a pas de polémique, à partir du moment où la famille de Samuel Paty est à l'initiative, en fait, de ce projet, et a accompagné tout le projet. Donc pour moi, il n'y a pas de polémique possible. Voilà.
Bon, eh ben ça,
mais c'est peut-être ça le problème d'ailleurs.
C'est-à-dire c'est,
bah parce que en effet, la famille,
la sœur,
le producteur, l'un des producteurs du film, c'est Stéphane Simon, qui a écrit le livre qui restitue tout avec la sœur Michel Paty. Donc ils sont très proches du truc. Et je m'étais dit en fait, bah peut-être que le problème il est là, c'est que ils sont trop proches. Et après le film est. Et encore une fois, si c'est à des fins pédagogiques, à des fins de devoir de mémoire, est-ce que c'est le rôle du cinéma ? Ça, c'est autre chose. Très bien. Mais le fait que ça soit des gens qui soient directement concernés, et quand on a la sœur de Samuel Paty encore plus, bah, c'est peut-être pourquoi il n'y a pas de point de vue et pourquoi je ne sais pas ce qu'on peut tirer de ce film, en fait.
En tout cas, on peut essayer de ne pas en tirer une polémique stupide, disant que c'est islamophobe de parler de l'assassinat d'un professeur d'histoire bien tranquille.
Tué par des gens islamistes.
Qui est tué par des islamistes fous furieux.
Et qui n'est pas un héros, qui est une victime.
Qui est une victime, absolument.
Oui, mais
parce qu'on a pensé le mettre au Panthéon aussi, et là je suis désolé parce qu'avec tout le respect que j'ai pour
Samuel Paty. Il y a tellement de tocards que ça ne serait pas sympa pour lui.
Oui, parce que ce n'est pas un tocard ce monsieur.
C'est pour ça, ce ne serait pas sympa pour lui.
Mais ce n'est surtout pas sa place. C'est-à-dire qu'au Panthéon, on est supposé mettre des héros. Enfin, en théorie.
Un grand inter et un héros.
Pas pour moi.
Bon, alors.
Mais la théorie voudrait ça.
Ah oui, bien sûr.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Arthur de
Jean-Yves Gallou.
Bon, ce n'est pas un héros, c'est une victime.
Oui.
Mais dans la tourmente, dans la tourmente, il se tient bien, il ne s'excuse pas, il ne plie pas.
Ah oui, oui.
Et ça, dans la société actuelle, moi, je trouve que c'est exceptionnel. Voilà. Parce que c'est le type qui se tient à côté des lâchés. Et donc, d'un certain point de vue, on aurait pu d'ailleurs accentuer l'opposition entre le courage et le lâchage. Ça, ça aurait été un angle par exemple.
Oui, parce que c'est vrai qu'il est courageux.
Il se tient bien. Il se tient bien. Après, il se fait égorger. Bon, ça... mais il se tient bien.
Non, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a une tendance quand même en France aujourd'hui, au-delà du cas de Samuel Paty, à la victimolatrie qui remplace le terrorisme.
Oui.
Et c'est quand même assez
effrayant. C'était l'un des projets de Macron, d'ailleurs.
Oui, mais parce que si, en fait, on devient
le
un
musée
pays
des
qui célèbre les victimes et qui ne sait plus reconnaître les héros, le pompon étant cette cruche d'Hidalgo qui avait fait, rappelez-vous, une plaque pour Arnaud Beltrame en écrivant Arnaud Beltrame victime de son héroïsme.
Ah bah non, parce que là, c'est le contraire. Oui. Ah oui.
Victime de son héroïsme. Bon, après, elle a été enlevée, ça avait fait un peu de scandale.
Heureusement.
Et je veux dire, on a un pays qui mérite de crever, quoi, tout simplement. C'est
ce qu'on défend souvent à Radio Courtoisie, c'est la langue française, le sens des mots, mais on vit objectivement dans un monde qui perd le sens des mots, c'est-à-dire la pensée n'est plus claire, on voit de plus en plus...
Si, c'est très clair la pensée, c'est en fait, vous n'existez pas...
Je pense que les gens ne savent
que
plus,
vous avez. Si, les gens savent très bien, le principe philosophique étant que vous n'existez pas et on ne vous célèbre pas pour ce que vous avez fait, et pour ce que vous êtes ou pour ce que vous avez subi. C'est pire, c'est pire que tout, quoi.
Je voudrais, puisqu'on se pose la question de à quoi sert l'abandon, eh bien voilà, Tanguy de Dantec, qui est enseignant en écologie à l'ESAJ, l'École supérieure des arts jardiniers, avec un peu de chance, nous explique qu'il y a quelques mois, à l'entrée du site où j'enseigne, dans le 5e arrondissement, j'ai découvert des tags « mort à Hanouna »,« mort au sionisme »,« Free Gaza », »,« la routine, hélas ». Ce jour-là, mon cours portait sur l'écologie appliquée, j'ai osé une petite introduction en rentrant dans mon cours, j'ai expliqué que ces slogans mettaient notre école en danger, qu'il valait mieux éviter des propos extrêmes. À ma grande surprise, une partie des étudiants m'a ouvertement contesté. Certains ont affirmé que les juifs avaient mérité leur sort, que Hanouna était d'extrême droite, que les musulmans étaient les véritables victimes persécutées par le système. Je suis resté sans voix, puis je leur ai rappelé qu'il s'agissait de menaces de mort. Plusieurs ont préféré quitter le cours plutôt que d'engager le débat. Quelques jours plus tard, j'ai compris que ma hiérarchie ne me soutenait pas vraiment.
Quelle surprise.
Et ça, c'est un tweet qui date d'il y a un jour. Quelques jours plus tard, j'ai compris que ma hiérarchie ne me soutenait pas vraiment. Des étudiants susceptibles s'étaient plaints de ce que j'avais osé dire. On me l'a fait savoir, on me l'a reproché. Voilà. Le sort de Samuel Paty me parle. Comment oser se taire? Si l'abandon permet à tous ces profs, en fait, de se dire qu'ils peuvent avoir eux aussi le courage de dénoncer la lâcheté du système pourri, comme vous dites, Arthur de Vatrigan, je trouve que l'abandon est quelque chose de nécessaire et d'utile.
La lâcheté principale, c'est celle de l'inspection académique, c'est celle de l'éducation nationale, c'est celle de la hiérarchie. C'est la principale, elle a plutôt un rôle, plutôt beau rôle, en tout cas dans le film. Mais par contre, ce qui est au-dessus, c'est à la fois l'irresponsabilité, parce que ce n'est pas eux qui sont sur le terrain, et quand même un esprit de lâchage. Quoi, voilà.
Et d'ailleurs, l'enquête administrative sur la manière dont Samuel Paty a été traité a abouti, évidemment, à ce que personne ne soit inquiété au sein de l'éducation nationale, toutes les procédures ayant été respectées.
Alors qu'il y a un rapport qui est assez sévère, un rapport détaillé qui est assez sévère.
C'est pourquoi le drame, la seule leçon que j'ai retenue de ce film, c'est ça, c'est qu'en fait, le système est vraiment gangréné, est vraiment pourri, et qu'aurait fait un tel ou un tel, l'issue était fatale. Vraiment.
Alors, ce qui est assez équilibré, quand même, dans le film, c'est que c'est difficile, quand on compare les administrations de l'éducation nationale et de l'intérieur,
savoir qui est la pire.
De dire qui est la pire, là. Il y a match.
Et pourtant, les deux ne dépendent pas des mêmes choses, on ne pense pas la même. C'est vraiment un ensemble, quoi.
Alors, on va passer à la suite, si vous voulez bien, parce que le temps nous presse et il faudrait traiter encore au moins un à deux sujets. D'abord, j'aimerais remercier les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous soutiennent et qui ont bien voulu répondre à nos appels, et notamment aux miens la semaine dernière, puisque, encore une fois, je le rappelle, nous sommes attaqués par des médias de gauche, mais aussi par des élus de gauche qui veulent empêcher des associations, des médias associatifs comme Radio Courtoisie, de pouvoir délivrer des reçus fiscaux. Donc littéralement, ils veulent nous tuer en tapant au portefeuille. Et nous avons un besoin vital, je ne le répéterai jamais assez, de constituer un trésor de guerre au cas où cela surviendrait, ou voilà, on peut se dire quand est-ce que ça va survenir. Et il faut que si cela survient, nous soyons absolument prêts à faire face. Alors, on a un auditeur qui nous dit... c'est une auditrice de Sous-Litre dans la Sarthe qui envoie 20 euros et qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, c'est la première fois que je donne, merci de nous le rappeler, c'est très bien dit, j'ai enlevé la télévision, Radio Courtoisie me suffit. » Eh bien écoutez, un immense merci chère madame, et surtout merci si c'est la première fois que vous donnez, parce que ça veut dire que vous avez entendu le message, et j'invite vraiment tous ceux qui n'ont pas encore donné à le faire, s'ils nous écoutent, s'ils apprécient nos programmes. C'est vital de se mettre en conformité, si je puis dire, de mettre en conformité ses actes avec ses idées. Voilà, donc si vous nous écoutez, sachez que nous ne pouvons pas le faire sans vous. On a également un auditeur, on fait un peu n'importe quoi, on se partage les trucs, mais c'est dans un désordre parfait.
Eh bien, un auditeur de Versailles dans les Yvelines envoie 20 euros. Je ne peux faire de prélèvement automatique sur mon compte bancaire, mais je peux vous envoyer 20 euros comme la dernière fois, en priant toujours pour que les petits ruisseaux fassent les grandes rivières. Je vous redis mon admiration pour vos émissions si variées qui enrichissent ma culture.
Bon, eh ben, merci monsieur. On a aussi un... Pardon, parce que je me perds dans les messages. Là, je lis un message qui était dédié, enfin, attribué à Richard. Un couple d'auditeurs de Paris, dans le 13e arrondissement, envoie 60 euros. Et alors, nous demande une petite faveur et demande, si possible, la suppression de la musique de fond lors des infos de 7 heures, très fatigante. Et également, si possible, à tous vos merveilleux journalistes ou intervenants bénévoles de bien articuler et de dire lentement le nom de leurs invités. Celui-ci ne passe pas toujours très bien à la radio. Merci encore et toujours. Mes félicitations à ma radio préférée. Eh ben, un immense merci déjà à ce couple d'auditeurs. Et puis, ben, je laisse Richard se dépatouiller avec la patate chaude. Des annonces du matin, c'est lui que ça regarde.
C'est parfait. Une auditrice d'Avenay dans le Calvados envoie 100 euros. Je veux aussi vous dire un très grand merci pour votre émission d'hier soir sur la bataille de Dien Bien Phu. Je l'ai déjà recommandé à mes amis sur la tablette en replay. Infiniment merci pour tout ce que vous faites. Il s'agit sans doute de l'émission de Marc Bessou où il a raconté comment il est allé retrouver une tombe d'un officier français là-bas. C'est effectivement un très beau témoignage.
Et on remercie d'ailleurs Marc Bessou pour ses très belles émissions et on remercie évidemment cette auditrice, d'Avenay pour sa générosité et pour le fait qu'elle nous recommande, parce que ça aussi c'est important, n'hésitez pas à faire connaître nos émissions à votre entourage et ça tombe bien qu'on parle aussi d'une émission culturelle, d'une émission historique, parce que Radio Courtoisie se distingue, je crois, des autres médias, notamment à droite, précisément en insistant beaucoup sur la dimension culturelle. C'est pas camarade Vatrigan qui nous contredira, puisque son restant courtois du mercredi est essentiellement culturel. Et on termine avec cette auditrice de Cherbourg, dans le Cotentin, qui envoie 25 euros et nous dit « Chers amis de Radio Courtoisie, je suis très touché par les menaces actuelles contre nos libertés et l'appel de notre président... » Ah oui, alors le président de Radio Courtoisie, donc moi, votre serviteur... et là aussi, je vous envoie ma première demi-cotisation de l'année, étant limitée financièrement en ce moment. Je ne vois presque plus, vous m'êtes très précieux et j'ai beaucoup de gratitude envers vous, amitié à tous. Et bien, chère madame, un immense merci et j'ai toujours beaucoup plus... Voilà, on est toujours très touché par les gens qui sont en difficulté et qui font tout de même ce geste de contribuer à la vie de leur radio. Donc un immense merci à vous. Et cette première demi-cotisation, nous la prenons et nous essayons d'en faire quelque chose de bien et de beau au service de nos valeurs. Alors, on revient, on va peut-être fermer cette page de promotion avec les Bobardors qui ont lieu dans 2 jours, Jean-Yves Le Gallou.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Eh bien oui, d'abord que c'est le 20 mai, mercredi 20 mai, donc dans 2 jours, à 19h30, 8 rue d'Athènes, à la salle Athènes Service, voilà. Que c'est une émission, c'est pas une émission, c'est une soirée,
une cérémonie,
un événement vivant, puisque ceux qui vont pouvoir assister, ce sont eux qui éliront les meilleurs bobardeurs. Et là, nous avons vu très large, puisque c'est sur les bobards du service public, sur 15 ans, il y aura aussi quelques bobards plus récents, mais sur 15 ans, c'est la sélection des bobards, des meilleurs bobards,
oui.
Et donc ça va être le bobard presque du siècle, enfin en tout cas de la décennie, et c'est ceux qui vont participer à cette cérémonie qui le désigneront, voilà.
Festival des bobards. Bon, alors ça a lieu donc à Paris, à l'espace
Athènes Service.
C'est où ?
8 rue d'Athènes,
okay. Et
c'est métro... Métro Saint-Lazare ou Trinité, enfin c'est
ce quartier-là. Est-ce qu'il faut s'inscrire sur Internet ou est-ce qu'on peut venir à la caisse ?
C'est mieux de s'inscrire sur Internet parce que les places sont
limitées,
donc c'est mieux de s'inscrire sur Internet. Sinon, on peut toujours tenter sa chance
pour avoir
le jour même, mais il peut y avoir un problème de jauge. Voilà, donc le mieux c'est de s'inscrire en allant tout simplement sur le site Polémia. Et on trouve tout de suite l'inscription, immédiatement l'inscription au Bobard.
Et je précise donc que j'aurai le plaisir, si les auditeurs de Radio Courtoisie se rendent à la cérémonie des Bobards, éventuellement d'avoir le plaisir de les croiser, de les saluer, puisque moi-même j'y interviens pour quelques instants pour parler de désinformation et notamment des scandales, du scandale Cohen-Legrand bien connu également de M. de Vatrigan, et de la commission à l'oncle.
Et Patrick Cohen sera évidemment un des candidats phares. Voilà.
J'espère qu'il sera récompensé.
Il a ses chances d'obtenir le bobard du siècle, mais il y aura de la concurrence.
Ça serait quand même la moindre des choses, parce que quand même, il se dévoue pour faire vivre votre cérémonie depuis des années.
Oui, absolument, il a beaucoup de mérite, ce gars-là.
Donc, on passe à la suite, on essaye de traiter ça rapidement, comme ça on pourra parler de l'Angleterre juste après. C'est la justice, donc. On parlait héros ou victimes. Que penser des 7 ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy? 7 ans et 5 ans d'inéligibilité. 300 000 euros d'amende. Voilà, peut-être est-ce qu'on aura 7 tomes d'un journal d'un prisonnier. Écoutez. Donc, le parquet général a requis donc cette peine contre lui dans l'affaire dite donc, du financement libyen. Et voilà, bah, j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de ce réquisitoire qui peut être sévère, qui apparaît sévère, et au moment donc, où ces avocats, eux, ont pris la parole aujourd'hui pour commencer à le défendre. Arthur de Vatrigan.
Comme par hasard. Est-ce que le réquisitoire est...
Je vous trouve trop présent sur d'autres chaînes en ce moment. J'ai envie de vous avoir à Radio Courtoisie tout le temps.
Merci du cadeau. Non, est-ce que le réquisitoire est plus sévère que le premier? Je crois pas.
C'est le même.
Donc, ce qui est intéressant, pour avoir suivi un peu le procès, on a vu quand même une nouveauté. C'est des attaques de Sarkozy à l'endroit de Claude Guéant et des réponses de Claude Guéant à l'endroit de Sarkozy.
C'était gratiné.
Et d'après le journaliste de Marianne, qui suit ces dossiers très bien et qui est vraiment un très bon journaliste sur le judiciaire, je trouve toujours très intéressant sur les récits qu'il raconte. C'est un piège du juge qui en fait a réussi à faire monter un peu la pression à l'endroit de Nicolas Sarkozy, pour lui faire dire du mal de Claude Guéant, d'après ce qu'il rapporte, et qu'ensuite Claude Guéant réponde. Donc on voit quand même aussi une stratégie, dans tous les procès évidemment qu'il y a des stratégies, mais on voit que le truc a été pensé et bien réfléchi, et il me semble qu'en tout cas, si les réquisitoires sont à peu près les mêmes, que lors du premier, il me semble qu'il y a des accusations également, à la différence qu'il n'y a plus uniquement l'association de malfaiteurs, mais en gros Nicolas Sarkozy, je cite de mémoire et de manière peut-être imprécise, ne serait pas juste associé, mais aurait piloté. Mmh. Voilà, c'est pourquoi il est resté sur les premiers...
Les premières réquisitions.
Après, si tout ce qu'on a entendu dans le procès, tout ce dont il est accusé est vrai, je trouve que c'est sympa. Bah, pardon, vous avez quand même... Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Là, on parle pas de... On parle de... Je vous rappelle qu'il y a plusieurs dizaines de Français morts dans l'attentat commis par un type qui a été condamné par contumace.
Absolument,
et qui...
54 Français morts.
Et qui, d'après les accusateurs, disent que Sarkozy aurait dealé avec lui... pour ses affaires avec Kadhafi, les affaires avec Kadhafi n'étant pas pour l'intérêt de la France, mais pour ses intérêts personnels, je trouve ça extrêmement grave. Mais très, très grave. Donc je dis, 7 ans, c'est sympa.
Alexis Poulain, un avis sur ce jugement? Sympa, pas sympa?
C'est sympa parce que, en fait, c'est sympa. Bon, déjà, il ne fera pas de prison. Non, mais enfin, on parle de scandale.
Il peut très bien partir de la prison.
Je suis pas certain du tout.
7 ans, c'est long.
7 ans, il ne les fera pas. Sur 5 ans, il a fait 20 jours. Sur 7 ans, allez, il va faire 15 jours, il écrira un nouveau livre.
Il a fait 20 jours pour l'appel.
Oui, pour l'appel. Mais je ne le vois pas aller en prison. Je ne sais pas pourquoi, peut-être je me trompe. Mais,
vous n'avez pas confiance en la justice de votre pays, Alexis Poulain. C'est désespérant.
Je la prends pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une justice quand même à plusieurs vitesses. On attend quand même autre chose. Malheureusement, enfin, ce qui ressort de ce procès, c'est... la bande de branquignoles que c'était, quoi. Parce que là, il commence à se balancer et ça commence à faire un peu Tony Soprano du pauvre. Mais ils ont tenu quand même tout ce temps-là pour arriver à le maillon faible, Claude Guéant, qui a fait de la prison plus longuement que Nicolas Sarkozy, qui balance à ce moment-là. Et ça y est, tout s'effondre avec l'assurance que derrière, il y avait clairement un deal avec le régime libyen. Et c'est ça qui est terrible. Alors, La nature du deal, maintenant, elle reste encore à creuser, mais le fait est que, clairement, Nicolas Sarkozy a utilisé Muammar Kadhafi d'une façon ou d'une autre, une fois dans sa campagne et une fois au pouvoir.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, moi, je vais redire ce que j'avais dit la fois précédente. Je trouve que ça ne grandit pas la liberté politique que ce genre de poursuite et que ça conforte assez largement le pouvoir judiciaire, qui est globalement nocif. Une fois que j'ai dit ça, et par rapport à mes observations de la fois précédente, je trouve que Sarkozy s'est très mal conduit, peut-être provoqué par le président, en balançant celui qui a été quand même son principal collaborateur et celui qui a été la structure d'État pendant 10 ans autour de Sarkozy, c'était Guéant. Ce Sarkozy partait un peu dans tous les sens. Guéant, qu'on avait surnommé le cardinal qui n'était pas forcément non plus un grand brevet de vertu, je dis par parenthèse, est balancé par Sarkozy. Je ne pense pas que Sarkozy, dans cette affaire, se soit beaucoup grandi, et je pense qu'il s'est plutôt affaibli.
Quelle envie qu'il en ait.
Et il s'est plutôt affaibli par rapport au jugement qu'il va subir. Voilà.
Bon.
Est-ce qu'on a tout dit, Richard de Sèze, un mot sur Sarkozy ?
Non, mais je redirais ce que moi aussi j'ai dit la dernière fois. Si, par principe, Nicolas Sarkozy doit payer 2005 et 2007, donc autrement dit, il doit payer le fait que le référendum ait été annulé par sa volonté, il doit payer les fausses promesses qu'il a passées son quinquennat à faire aux Français.
Mais ça, à côté c'est ça, une justice immanente, alors
oui,
je
suis pour le fait qu'il est condamné peut-être pour les mauvaises raisons,
oui, c'est, il est pas
et certainement
pour
par une justice horriblement partial et surtout à ce niveau-là, qui a décidé de se payer Nicolas Sarkozy, qui les a traités de petits pois. Et donc, voilà. Et donc, ils ont envie de lui faire comprendre que c'est eux qui sont la boîte de conserve et que bientôt il va se retrouver dedans. Voilà. Bon, donc, les motivations des juges, et je ne renie pas du tout l'excellente analyse qu'Arthur de Vatrigan avait faite au moment du premier jugement, mais il est évident que Nicolas Sarkozy paye aussi. Les déclarations qu'il a faites contre la justice française, et la justice française devrait faire son examen. Mais c'est bien fait pour sa gueule.
Bon, et bien sur ce réquisitoire plein de neutralité.
Oui, et de charité chrétienne.
Et de charité chrétienne.
Bon, on espère simplement.
On sent aussi que vous allez représenter Radio Courtoisie cet été sur les autres médias. Vous. C'est bien parti, merci Richard.
Je pense que LVMH pourrait offrir un bracelet électronique.
Un bracelet
Vuitton.
Oui.
Vuitton, quand même, pour faciliter les choses. Quoi.
Alors, on passe à un tout dernier sujet. C'est quand même un sujet important. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Donc, alors, vous avez peut-être suivi, je l'espère, en tout cas, sur les ondes de Ligne Droite et sur nos réseaux sociaux, donc les manifestations monstres et renouvelées contre l'immigration qui ont eu lieu à Londres ce samedi à l'appel de Tommy Robinson, et la victoire impressionnante de Reform UK, donc de Nigel Farage, qui a eu lieu la semaine passée. Et néanmoins, une réaction du gouvernement anglais qui ne va pas du tout dans le sens d'une prise de conscience de l'opinion publique et qui, pour essayer de nuire à la manifestation notamment, s'est quand même permis d'interdire de territoire, non pas un vulgaire écrivain ou un journaliste, mais un député, qui est le député Philippe de Winter, député flamand du Vlaams Belang. C'est quand même étonnant, parce que comment peut-on dire, par exemple, qu'un député représente un danger pour la sécurité publique ? C'est quand même étrange. Alors, Jean-Yves Le Gallou, que vous inspire à la fois ces deux grands succès contre le grand remplacement, contre l'immigration, et en même temps cette réaction épidermique d'un gouvernement qui se défend bec et ongles contre son propre peuple.
Bah, la seule solution pour
mon lancement aussi, Richard, vous l'aurez noté, est plein de nuances.
Tout à fait. Je crois qu'on est vraiment dans la neutralité axiologique chère à France Télévisions. Delphine, si tu nous écoutes, on t'a entendu.
Bah, je crois que c'est assez simple. Le système ne peut continuer à imposer l'immigration de masse, dont l'opinion ne veut plus, ni globalement, ni en particulier, sur les territoires où on implante des foyers de migrants, on le voit en France, on le voit aux Pays-Bas, on le voit en Grande-Bretagne, que par la censure et la répression. Et en Angleterre, la répression est forte, puisqu'il y a, je crois, 3 000 gardés à vue par an pour de simples tweets. 3000 gardés à vue par an pour de simples tweets. Et Tommy Robinson, qui organisait cette manifestation, a fait en plusieurs fois plus d'un an de prison pour du délit d'opinion. Donc, mais le système ne peut tenir que par la répression et la répression du délit d'opinion. Ceci étant, quand on regarde les éléments positifs, vous en avez cité deux, moi j'en vois trois. Le premier, c'est la grande manifestation qui a eu lieu. Mm-hmm. Le deuxième, c'est le succès, on en a déjà parlé, aux élections municipales britanniques partielles du parti de Farage. Mm-hmm. Et le troisième élément dont on n'a pas parlé la semaine dernière, mais qui est très important et qu'il faut suivre de très près, c'est le succès du parti Restore Britain,
ah oui.
qui lui va qui beaucoup plus, à droite plus loin que Farage. Farage, c'est quand même mi-chèvre, mi-chou.
Oh, c'est quand même quoi.
Non, sur l'immigration, il n'est pas aussi clair que... Il va essayer de capter l'électorat, mais il est beaucoup moins clair que Restore Britain, qui est carrément pour la remigration, et qui là, où il a été candidat aux élections municipales, c'est-à-dire dans le Grand Yarmouth, c'est à l'est de l'Angleterre, il a remporté tous les sièges. Il va falloir suivre de près une élection législative partielle qui va avoir lieu à Wakefield et où il y aura à la fois les candidats traditionnels des différents partis politiques britanniques, mais aussi évidemment le parti de Farage, et il y aura le candidat, une candidate plus exactement, de Restore Britain, ce qui va permettre de voir comment... peut se partager l'électorat, y compris pour employer le jargon de France Télévisions et de Delphine, à la droite de la droite.
Oui, alors la question là, c'est le risque quand même pour Restore Britain de ne pas servir un peu de diviseur.
L'argument... c'est l'argument qui explique...
C'est un peu être le Philippe de Villiers du Front National dans les années 90.
C'est l'argument qu'a utilisé pendant des années le RPR et l'UMP contre le Front National.
Oui, mais maintenant, ça va dans notre sens.
C'est l'argument qu'utilise aujourd'hui le Front National contre...
Reconquête.
C'est l'argument du vote utile. Et c'est précisément parce que nous, on a vécu pendant 40 ans avec le vote utile qu'on en est là aujourd'hui. Donc le vote utile, j'ai tendance à penser que le vote utile, c'est le vote débile.
Bon.
Putain, si on m'avait dit un jour que Farage serait le vote utile...
Alors là,
l'émission n'en est là, c'est que ça va. Franchement, c'est que les Britanniques, je vais presque les... Non, faut quand même pas déconner. Mais, mais Farage doit composer en effet avec un électorat qui est encore plus diffus que le nôtre en France. C'est-à-dire l'immigration est encore plus importante en Angleterre, en Grande-Bretagne. Il doit composer avec son parti et avec son électorat. C'est pourquoi il vous paraît mi-figue, mi-raisin et qui n'est pas clair à tous les tableaux. Mais globalement, il y a quand même une ligne qui est assez claire. Après, voilà, il doit faire avec une réalité. Est-ce que le petit parti, en effet, qui monte, s'embarrasse pas, mais il aura ces problèmes-là le jour où il grandira, c'est toujours la même chose.
Oui, mais par contre, le petit parti peut être utile pour...
Un petit parti, c'est toujours utile.
Pour avoir un stimulant, voilà.
Quand vous êtes gros, vous dites qu'il divise, et quand vous étiez petit avant d'être gros, vous dites, qu'est-ce qui m'emmerde, c'est moi qui ai raison. C'est le jeu.
Oui.
Mais en tout cas, si le Farage
monsieur.
Devient le vote utile, ils ont de la chance, les Britanniques.
Alexis Poulain, en 10 secondes, 20 secondes, est-ce que vous avez un avis sur cette histoire ?
Oui, alors cette histoire montre aussi le royaume de la censure qui est devenu le Royaume-Uni, parce que vous avez un responsable de Reform UK qui s'appelle Zia Youssouf, qui avait mis pas mal de vidéos de cet événement, etc. Et son compte TikTok a sauté. Sous le Online Safety Act, vous savez, ce sont ces lois qui sont déjà beaucoup plus en avance sur la censure des réseaux sociaux en Grande-Bretagne. C'est exactement ce que veut faire Macron ici, c'est-à-dire faire taire les oppositions sous des prétextes fallacieux d'opinions de haine, enfin, etc., etc. Donc on a là devant nos yeux un fait clair de la censure algorithmique poussée par un État, enfin, ou un gouvernement retranché. Donc j'espère que ça va bouger aussi en Grande-Bretagne, que nous, on va éviter le pire, puisque c'était le début de l'émission sur ces un an, ce qui reste à Macron. Ce qui reste à Macron, c'est quand même de censurer, de verrouiller les réseaux sociaux pour faire en sorte que 2027 soit totalement
sous contrôle.
Donc, c'est vraiment à nous, les médias indépendants, de faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Alexis Poulain. C'est une excellente conclusion. C'est à nous, médias indépendants, de faire en sorte que ça n'arrive pas. Nous allons nous y efforcer. Restons courtois, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez rendez-vous demain avec Richard de Sèze, mercredi avec Arthur de Vatrigan, jeudi avec Marc Hainaut, qui était notre invité aujourd'hui, vendredi avec Marc Baudrier de Boulevard Voltaire, et lundi prochain avec moi à nouveau. Merci à Claudia, merci Richard, Alexis, merci Arthur de Vatrigan et Jean-Yves Le Gallou, merci. Et à la semaine prochaine.
Ça suffit maintenant.